Séoul au jour le jour. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 6 mai à Séoul et le moment est venu de retrouver le fil du quotidien. Après une semaine commencée par le 1er mai, fête des travailleurs et rythmée par l'anniversaire de Bouddha et la journée des enfants, le pays s'apprête à clore près de 6 jours de congés exceptionnels. Entre les retrouvailles en famille, les escapades entre amis ou les voyages à l'étranger, beaucoup ont savouré cette pause printanière. Mais déjà l'heure est au retour à la vie ordinaire et à ses habitudes. C'est sur cette transition entre la parenthèse et la reprise que s'ouvre notre édition de ce mardi. Le matin du 30 avril dernier, vers 8h, devant l'arrêt de bus de la station Sadang dans le district de Tonjac, les files d'attente s'allongeaient. Les regards se tournaient vers les bus qui arrivaient en retard, déjà bien remplis. Un jeune salarié de 25 ans s'écrie en courant « Si je rate ce bus, je vais être en retard ». Le véhicule à peine arrêté, plusieurs personnes tentaient de monter en poussant, sac sur le ventre pour se faire une place. À l'extérieur, des exclamations se faisaient entendre « Oh mon Dieu, on n'y arrivera pas ». Ce matin-là, les bus arrivaient avec 5 minutes de retard, suffisante pour saturer les arrêts habituellement bien régulés. À Séoul, où le rythme de la vie quotidienne est d'une rapidité remarquable, il n'est pas courant d'assister à une telle scène. Ce jour-là pourtant, un changement soudain s'expliquait par une grève du zèle entamée par les conducteurs de bus de la capitale. Ils respectaient à la lettre les consignes de sécurité, attendaient que chaque passager soit assis avant de démarrer et refusaient de dépasser les véhicules précédents. Cette mobilisation a été déclenchée par le syndicat des travailleurs des bus urbains après l'échec des négociations salariales avec la partie patronale, représentée par l'Association des opérateurs de bus de la ville. Le dialogue ayant été rompu le 30 avril vers 2h du matin, les chauffeurs ont décidé de durcir le ton. Ils réclamaient notamment l'intégration des primes dans le calcul du salaire de base, ainsi qu'une hausse de 8,2% de leur rémunération fixe. Sans aller jusqu'à une grève générale, ce mouvement a suffi à ralentir le fonctionnement habituel du réseau de bus. Anticipant une paralysie du trafic, plusieurs citoyens ont ainsi choisi de partir plus tôt. Fort heureusement, les perturbations redoutées sont restées limitées. Les chauffeurs ont modéré leur application du protocole aux heures de pointe pour ne pas pénaliser excessivement les passagers. « Nous faisons attention à ne pas trop gêner les usagers », a confié un acteur sous couvert d'anonymat. Un constat partagé par certains citoyens, comme ce salarié de 43 ans rencontré près de l'arrêt de Yeongdongpo. Lors de la grève de mars dernier, j'étais arrivé en retard malgré un départ avancé de 20 minutes. Cette fois, je suis sorti 30 minutes plus tôt, mais l'attente n'était pas très différente d'un jour ordinaire. Depuis le 1er mai, après cette journée de grève d'avertissement, les bus ont repris leur service normal en tenant compte des longs jours fériés du pays. Cependant, le conflit est loin d'être éteint. Le syndicat a prévenu que si aucun progrès n'est réalisé pendant cette période, il décidera des prochaines étapes lors de la réunion des représentants régionaux de la Fédération sud-coréenne des travailleurs de l'automobile et des transports, prévue pour le 8 mai. Redoutant une possible grève générale, la ville de Séoul suit de près les négociations entre les deux parties. Les autorités municipales ont annoncé qu'en cas de reprise des actions de protestation, des fonctionnaires seront envoyés sur les principaux sites du réseau de bus afin de limiter les arrêts prolongés et intervenir rapidement. Yeo Chang-won, directeur des transports de la municipalité, a assuré « Nous mettrons tout en œuvre pour aboutir à un accord avec le syndicat sur la question des salaires. D'ici là, nous ferons le nécessaire pour garantir aux citoyens un accès fluide aux transports en commun sans perturbations liées aux éventuelles mobilisations. » Plat emblématique de la cuisine coréenne et favori incontesté des Sud-Coréens, le samgyeopsal, tranche de poitrine de porc grillé, semble aujourd'hui hors de portée pour nombre de foyers. Selon la Korea Customs Agency, en mai 2024, le coût moyen d'une portion de 200 grammes avait franchi pour la première fois la barre des 20 000 won, avant de grimper jusqu'à atteindre 20 276 won en mars dernier. Pour une famille de 4 personnes, il faut désormais prévoir plus de 100 000 won, environ 70 euros, pour un dîner classique comprenant 4 portions de viande et 2 bols de naengmyeon, des nouilles froides traditionnelles. Mais les envolées de prix ne s'arrêtent pas là. Selon le portail national des statistiques, le COSIS, de nombreux plats populaires comme les sashimi, les jajangmyeon ou encore les hamburgers ont vu leurs tarifs augmenter de 4 à 6% en un an. Pour les ménages, cela signifie un budget repas qui s'alourdit un peu plus chaque mois. Avec un won affaibli et des poussées successives dans l'alimentaire, il devient de plus en plus difficile de préserver les petits plaisirs du quotidien. En avril, en Corée du Sud, l'indice des prix à la consommation dans la restauration a atteint 124,36, avec 2020 comme année de référence fixée à 100, ce qui représente une augmentation de 3,2% sur un an, le rythme le plus rapide depuis mars 2023. Sur l'ensemble de l'économie, l'inflation a dépassé 2% pour le quatrième mois consécutif et le repas pris à l'extérieur ayant contribué pour 0,45 points à ce résultat. Au niveau mondial, la situation n'est guère plus rassurante. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'indice mondial des prix alimentaires a progressé de 1% en avril, poursuivant ainsi une série de 4 mois consécutifs de hausse. La viande, à elle seule, affiche une progression mensuelle de 3,2%. En Corée, le prix de gros du porc de première qualité a donc bondi de 15,2% sur un an début mai, tandis que l'inflation sur les produits d'élevage atteint 4,8% en avril, son plus haut niveau depuis 33 mois. Pour contenir cette flambée, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures. Nouveau contingent tarifaire sur la viande de porc importée comme matière première et les produits transformés à base d'œufs, ainsi qu'un budget supplémentaire de 170 milliards de won pour financer des campagnes visant à baisser des prix des produits agricoles, de la mer et d'élevage. Le ministère de l'Économie et des Finances a assuré qu'il suivra de près l'approvisionnement, les prix et la distribution des produits essentiels et qu'il interviendra rapidement en cas de besoin. Même pas assez pour l'essence, soupirait Yan Chidong, capitaine du Qingyang 3, en rangeant ses filets au port de Taechon à Bolyang, une petite ville côtière de l'ouest de la Corée du Sud. Après avoir passé toute la matinée en mer, il est revenu bredouille. En cette saison, les casiers auraient dû être pleins de crabes, pourtant cette fois, seule une poignée de pétoncles a été pêchée. Depuis plus de 2 semaines, les pêcheurs de la mer Jaune tirent la sonnette d'alarme. La température de l'eau reste anormalement basse, ce qui empêche les crabes de regagner les côtes. Selon Kim Sang-tae, pêcheur de crabes depuis plus de 50 ans et président de l'association de la pêche côtière, dans des conditions normales, on enregistrait déjà entre 23 et 25 degrés, mais l'eau peine encore à dépasser les 20 degrés. Mais quelle est la cause de ce phénomène? Cette année, l'eau claire, une eau froide et transparente, persiste bien au-delà de la normale. D'habitude, elle disparaît au bout de 5 jours, mais cette année, cela fait plus de 15 jours qu'elle se maintient. En conséquence, les crabes, les mulets et les seiches qui caractérisent le printemps ne remontent pas vers les côtes. Selon l'Institut national des sciences halieutiques, la température des eaux sud-coréennes est inférieure de 0,5 à 1 degré à la moyenne habituelle. Les satellites ont permis de détecter cette baisse dès la fin février, et la situation ne s'est pas améliorée depuis. Chang Lee-hong, chercheur à l'Institut, explique « Le refroidissement persistant jusqu'à la mi-avril, combiné à l'affaiblissement des courants chauds, notamment le courant de la mer Jaune et celui de Tsushima, a réduit l'apport d'énergie en provenance de Kuroshio. » Mais dans un contexte de réchauffement climatique et d'inquiétude face à l'élévation des températures marines, comment expliquer que des eaux qui souffraient chaque année de fortes chaleurs se retrouvent soudainement refroidies ? Kwon Min-ho, directeur du Centre de prévision climatique maritime, a proposé une explication. La fonte marquée de la banquise arctique, en particulier dans les régions de Barents et Kara, aurait modifié la circulation atmosphérique. Cette situation aurait facilité la formation de systèmes de blocage près de l'Oural, ce qui aurait provoqué une vague de froid tardive en Corée du Sud. Cho Yang-gi, directeur de l'Institut de recherche en océographie de l'Université nationale de Séoul, a alerté sur cette situation. Après plusieurs années marquées par des températures élevées, les écosystèmes marins risquent de subir un stress considérable. De son côté, Kim, président de l'Association de la pêche côtière, a souligné qu'il faudrait lancer au plus vite des études approfondies pour anticiper les répercussions sur la filière halieutique. Il a averti également que les prix des produits de la mer risquent de grimper fortement. Écoutons à présent Boat de The Georgie. Vous avez aimé ?
vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Vous écoutez Séoul au jour le jour et l'édition de ce mardi 6 mai 2025 vous est présentée par Maxime Lalo. Face à la hausse généralisée des dépenses quotidiennes, les jeunes diplômés sud-coréens affichent des attentes plus élevées concernant leur première rémunération. « Je pense qu'il faut au moins 40 millions de won pour que je commence à envisager de postuler », témoignait Kim Min-soo, 26 ans, tout juste diplômé et actuellement en recherche d'emploi. Même si le marché du travail reste tendu, il jugeait difficile de revoir ses attentes salariales à la baisse au vu du coût de la vie. Selon une enquête menée par la HR Tech Sud-Korean Incruit, entre le 7 et le 23 avril 2025, pour 691 jeunes diplômés ou sur le point de l'être en recherche de leur premier emploi, le salaire annuel souhaité s'élève en moyenne à 41,4 millions de won, soit environ 28 500 euros. Par rapport à l'an dernier, cette augmentation reste très légère, seulement 40 000 won de plus, ce qui vaut à 27 euros. En revanche, entre 2023 et 2024, la progression avait été bien plus marquée, avec une hausse de 1,92 million de won, soit près de 1 320 euros. Dans un contexte économique plus difficile, certains jeunes ne se contentent plus d'ajuster leurs attentes salariales, ils abaissent aussi le minimum qu'ils sont prêts à accepter. Le seuil en dessous duquel ils ne postulent pas s'établit désormais à 36,37 millions de won, soit environ 25 000 euros, contre 37 millions de won l'an dernier, ce qui correspond à 25 400 euros. Pour Incruit, ce léger recul traduit la pression du marché de l'emploi et les effets prolongés du ralentissement économique qui poussent les jeunes à réviser leurs critères. Parmi les critères qui déterminent leurs attentes salariales, 34,9% des personnes interrogées citent en tête le niveau de rémunération généralement pratiqué dans le secteur ou selon la taille de l'entreprise. Par ailleurs, 94,8% estiment que le salaire proposé joue un rôle décisif dans leur décision de postuler ou non. En ce qui concerne leurs priorités, 40% mentionnent une rémunération satisfaisante. La possibilité de développement professionnel arrive en deuxième position avec 14,5%, suivi d'avantages sociaux mis en avant par 8,7% des répondants. Autrefois surnommé le palais dans les airs, la première classe faisait rêver avec ses cabines fermées, ses menus gastronomiques et son service dédié. Longtemps perçue comme un symbole de prestige, elle servait aux compagnies aériennes à montrer sans détour jusqu'où pouvait aller leur sens du service. Mais cette époque semble toucher à sa fin. Aujourd'hui, plutôt que de réserver un espace immense pour quelques passagers privilégiés, de nombreuses compagnies préfèrent optimiser leur configuration de cabine. En effet, la première classe s'efface peu à peu, freinée par des coûts d'aménagement difficiles à rentabiliser, un faible taux de remplissage qui dépasse rarement les 20% et la réduction des budgets de déplacement des entreprises. Dans ce nouvel agencement, la classe affaires, de plus en plus confortable, occupe désormais l'espace laissé vacant. Pour de nombreux voyageurs, cette classe suffit désormais à offrir le niveau de confort attendu sans avoir à grimper jusqu'au sommet tarifaire de la première. En parallèle, les compagnies investissent aussi dans des sièges en premium économie, pensés pour ceux qui veulent plus d'espace qu'en classe économique sans exploser leur budget. C'est donc une solution plus simple, plus souple qui semble convenir aux deux parties, les compagnies comme les passagers. Selon le dernier rapport de Cirium, société britannique spécialisée dans l'analyse du secteur aérien, le nombre de sièges disponibles en première classe était de 12,6 millions en 2023 contre 21 millions en 2019, une chute de plus de 40%. Ce recul est d'autant plus frappant que dans le même temps, le nombre total de sièges a légèrement progressé. En Corée du Sud aussi, la première classe perd du terrain. Korean Air a récemment annoncé la conversion de 11 Boeing 777-300ER, retirant les 8 sièges de première classe pour les remplacer par des places en premium économie. Le transporteur précise toutefois que compte tenu du rôle et de la demande existante, le service de haut de gamme continuera d'être proposé. Chez Asiana Airlines, le virage est encore plus net. Depuis 2019, cette option n'existe plus sur les liaisons internationales. Ces décisions répondent certes à des impératifs de rentabilité, mais reflètent surtout une évolution claire des attentes des passagers. Moins attirés par le luxe ostentatoire, les voyageurs d'aujourd'hui comparent, calculent et préfèrent mettre leur budget ailleurs. Du côté des entreprises aussi, les mentalités ont changé. Là où les voyages en première classe étaient autrefois la norme pour les cadres dirigeants, les sociétés tendent désormais à limiter davantage leurs dépenses de déplacement. Prêt à prendre un peu de hauteur et profiter d'une vue magnifique de Séoul, voici une excellente nouvelle pour ceux qui rêvent de découvrir la capitale autrement. Le trésor national numéro 224 de la Corée, le pavillon Gyeonghaelu, ouvrira bientôt ses portes aux visiteurs. Le 29 avril, l'administration du patrimoine culturel de Corée annonçait que des visites spéciales de ce site traditionnel, situé dans le palais de Gyeongbokgung, seront organisées du 8 mai jusqu'à fin octobre. Le Gyeonghaelu, dont le nom signifie « pavillon des réunions joyeuses », est construit sur un étang. C'est un bel exemple de Nugak, un pavillon sans porte ni mur qui offre une vue panoramique. Sous la dynastie Joseon, il abritait les grands événements du royaume, des banquets, des réceptions d'émissaires étrangers et des rituels pour invoquer la pluie. À ses débuts, le Gyeonghaelu n'était qu'un modeste pavillon érigé au moment de la construction du Gyeongbokgung, mais il fut agrandi sous le règne du roi Taejong. Plus tard, sous Sangjong, le bâtiment fragilisé fut réparé et embelli avec des colonnes décorées de dragons et de fleurs, tandis que sous Yeonsangun, un îlot artificiel fut ajouté au milieu de l'étang. Malheureusement, le pavillon fut en grande partie détruit pendant les invasions japonaises. Il ne reste aujourd'hui qu'environ trois colonnes appelées Nuhaju, les piliers sous le pavillon. Sa version actuelle est donc le fruit de la reconstruction effectuée sous Gojong. Habituellement fermée au public pour des raisons de conservation, cette construction emblématique accueille depuis 2010 des visites spéciales qui étaient interrompues uniquement pendant la pandémie. Cette année, il offre au public la possibilité unique de monter à l'étage et de découvrir un panorama grandiose. Les toits de Gyeongbokgung à l'est, le mont Inwang à l'ouest et une vue dégagée à 360 degrés. Les billets sont disponibles depuis le 1er mai sur le site du Service Royal Palaces and Tomb Center. Chaque session accueillera jusqu'à 30 participants avec une limite de 2 tickets par personne. Les réservations sont possibles à partir de 7 jours avant la date souhaitée et jusqu'à 23 heures la veille. S'il reste des places disponibles, il est même possible de réserver sur place. Pour plus d'informations, vous pouvez aussi consulter le site officiel ou contacter l'organisateur par téléphone. Et avant de passer le micro à Christelle Drouard pour Carte Postale, je vous propose une deuxième et dernière pause musicale avec A Walk, interprétée par Baek Hye-lin.
Recevoir une carte postale exotique de la part d'un ami, ça fait plaisir. Et si elle était sonore ? Mode, exposition, festival, découvrez chaque mardi avec Christelle Drouard les dernières tendances en Corée.
Aujourd'hui, partons à la découverte de l'un des plus grands trésors de la Corée du Sud, le temple Bulguksa, situé à Gyeongju, au pied du mont Toamsan. Véritable chef-d'œuvre de l'architecture bouddhiste, ce temple est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1995, aux côtés de la célèbre grotte de Sogbu-ram. Le temple Bulguksa, dont le nom signifie « temple de la terre de Bouddha », a une histoire qui remonte à l'époque du royaume de Shilla. Sa première construction date de 528, sous le règne du roi Bob-eung, alors que le bouddhisme venait d'être adopté officiellement comme religion d'État. À l'origine, le temple visait à assurer la paix et la prospérité du royaume. Mais c'est en 751, sous l'impulsion du premier ministre Kim Dae-sung, que débute la construction du temple tel qu'on le connaît aujourd'hui, en hommage à ses parents. Malheureusement, Kim Dae-sung décède avant la fin des travaux, qui s'achèvent en 774, sous le règne du roi Haegong. Bulguksa se distingue par son agencement symbolique. Le complexe est divisé en trois zones principales, représentant la terre du Bouddha. Les visiteurs accèdent au cœur du temple en traversant des ponts de pierre remarquables, pont du nuage bleu et pont du nuage blanc, qui symbolisent le passage du monde profane au monde sacré. Ces structures, tout comme les deux célèbres pagodes en pierre, Dabotap et Sogaktap, sont classées trésors nationaux et témoignent du raffinement de l'art et de l'ingénierie de l'époque Shilla. Au fil des siècles, Bulguksa a subi de nombreuses destructions, notamment lors des invasions mongoles au XIIIe siècle, puis japonaises pendant la guerre d'Imjin en 1593, où la plupart des bâtiments en bois furent incendiés. Malgré ces épreuves, le temple a été restauré à de multiples reprises, notamment entre 1969 et 1973, pour lui redonner son éclat d'antan. Aujourd'hui, Bulguksa abrite 6 trésors nationaux, dont 2 statues de Bouddha en bronze doré, et conserve des éléments architecturaux uniques datant de l'époque Shilla. À quelques kilomètres du temple Bulguksa, niché sur les pentes du mont Toamsan, se trouve la grotte Sokguram, un autre trésor du patrimoine mondial de l'UNESCO et l'un des grands chefs-d'œuvre de l'art bouddhique d'Extrême-Orient. Cette grotte artificielle, construite entre 751 et 774 sous la dynastie Shilla par le ministre Kim Dae-sung, forme avec Bulguksa un ensemble architectural religieux d'une valeur exceptionnelle. À l'intérieur, une rotonde circulaire abrite une statue monumentale du Bouddha Shakyamuni, tournée vers la mer, entourée de bodhisattvas, de divinités et de disciples sculptés avec une grande finesse dans le granit. L'architecture de la grotte, avec son dôme de pierre et ses bas-reliefs, témoigne de l'ingéniosité et du raffinement des artisans de Shilla. Selon la tradition, Kim Dae-sung aurait fait ériger Bulguksa en hommage à ses parents de cette vie et la grotte de Sokguram pour ceux de ses vies antérieures, illustrant l'importance de la piété filiale dans la culture coréenne. Aujourd'hui, le temple Bulguksa et la grotte Sokguram restent de hauts lieux du bouddhisme coréen et attirent chaque année des milliers de visiteurs venus admirer leur beauté, leur spiritualité et leur histoire millénaire. Si vous visitez Gyeongju, ne manquez pas ces sites exceptionnels, véritables symboles de la culture coréenne et témoins vivants du génie artistique du royaume de Shilla.
Ainsi se termine votre émission Séoul au jour le jour. C'était Ha Jin-hwa à la rédaction, Maxime Lalo au micro et Ohayang à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de KBS World Radio.